Vous écoutez RTL.
Allez, tout de suite, on voyage dans le temps sur RTL, direction les années folles. Bonjour Charles de Saint-Sauveur.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver, vous êtes journaliste, vous avez supervisé un hors-série du Parisien sur les années folles en partenariat avec RTL. Tout simplement, et puis après on va avoir la dernière demi-heure, on va se situer dans le temps, c'est quand les années folles?
Bon, en gros, c'est une décennie qui va de 1919 à la fin de la guerre jusqu'à 1929, le krach boursier à New York.
Pourquoi
et qui leur donne ce nom?
Alors, on ne sait pas très bien, c'est un vent qui souffle d'Amérique, hein, c'est un vent d'Ouest. Là-bas, on appelle ça les Roaring Twenties, pardon pour l'accent. Mais Paris, néanmoins, est l'épicentre vraiment de ce phénomène. Paris a un grain de folie pendant 10 ans. On veut oublier la guerre, on veut oublier les morts. 1,5 million de morts, une nation amputée, exsangue. Et donc, ce grain de folie arrive, c'est l'avant-garde. À Paris, c'est effectivement la créativité, les inventions et aussi des exploits. Enfin, on va revenir sur tout ça et bien sûr la danse.
Les années folles au menu de notre curiosité sur RTL. On va danser justement dans un instant.
Le tango.
Et scandale garanti, vous allez voir.
On a plein d'options.
C'est vrai, vous m'invitez?
Allez.
La curiosité.
C'était au temps où Paris rayonnait.
Est un vilain défaut.
On revient de l'enfer, autrement dit de la guerre et d'un cauchemar de 4 ans. Tout est à reconstruire, à commencer par le pays.
RTL.
La France danse, chante, s'amuse. Elle se presse au spectacle de Maurice Chevalier et de Mistinguer.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Sur cette terre, ma seule joie, mon seul bonheur, c'est mon homme.
Mistinguette chante Mon homme et Pierre Baron, l'un de nos sociétaires, racontait les années folles. On plonge dans cette décennie qui suit la Première Guerre mondiale, une décennie de fêtes, d'ivresse. On a envie de rire, de s'enlacer. Et donc, Charles de Saint-Sauveur, on a envie de danser dans beaucoup de lieux, un peu partout en fait.
Oui, vraiment, on danse absolument partout, dans les tea rooms, dans les casinos, dans les music halls évidemment, mais aussi dans les théâtres. Même pendant l'entracte, souvent, on danse pour se défouler. Il y a même l'Olympia qui ouvre ses portes à 20h, c'est-à-dire avant vraiment le coup d'envoi de la soirée, pour que les corps se défoulent en quelque sorte.
Et on gâche avant le spectacle.
Ouais. Exactement, comme à l'Alcazar où on enlève quelques fauteuils comme ça pour que les gens puissent danser. C'est une folie de la danse qui s'empare de Paris à cette époque-là.
Ouais. Charles de Saint-Sauveur, il y a même un nouveau métier qui est lié à la danse qui apparaît pendant ces années folles. Quel métier?
Alors, danseur mondain qui a été très très vite associé à gigolo, mais c'était pas exactement ça.
Il y a danseuse mondaine aussi, j'imagine, ou c'est seulement pour les hommes?
Alors, danseuse mondaine, on connaissait depuis la belle époque. Danseur mondain, c'est une nouveauté quand même qui apparaît. Alors souvent, ils ont un peu le teint mat, etc. Ils viennent d'Amérique du Sud ou feignent d'en venir.
Et,
ils ont mauvaise réputation,
mais
ils s'entraînent dur d'ailleurs pendant la journée. Et le soir, ils font la tournée des balles, 3 ou 4 balles. Et puis évidemment, ça s'adresse à un public de fortunés. Hein,
et oui,
de
qui peuvent les payer, oui.
Exactement, oui.
Attendez, on se paye son compagnon de danse, quoi?
On le paye par le truchement des pourboires, voilà, on s'arrange un petit peu et peut-être plus si affinité.
Alors on danse quoi dans les années folles? On danse, je disais tout à l'heure, tango, charleston, ça fait partie des hits de l'époque?
Oui, exactement. Alors il y a le tango qui vient de Buenos Aires et de Montevideo, hein, qui est né 40 ans plus tôt. Il y a donc une danse très sensuelle. Il y a beaucoup de danses qui viennent d'Amérique, hein, le foxtrot, le charleston, comme vous
le
disiez.
Alors, à l'époque, danser sur du tango, on dansait sur ça, écoutez.
Pas mal, ça donne envie de bouger.
C'est bien, hein. Ouais.
Et puis on a aussi un peu de charleston grâce à Josephine Baker. On est au théâtre des Champs-Élysées, c'est sa revue nègre. Ça donnait ça. Charles de Saint-Sauveur, est-ce qu'il y a une concurrence entre les danses françaises et les danses américaines?
Alors, il y a une concurrence tout court entre la France et les États-Unis. Hein. C'est vraiment le pays qui est venu donner un coup de pouce à la fin de la guerre. Mm-hmm. Il y a une admiration sincère, assez réciproque d'ailleurs. Beaucoup d'Américains viennent à Paris et ça vaut aussi évidemment pour tout ce qui est créatif et notamment les danses. Alors, il y a la Java qui est très parisienne, hein, qui est née vers Bastille en 1925.
Qu'est-ce et les danses américaines. C'est scandaleuse la Java.
Ah ben, on met les mains sur les fesses et c'est une vraie danse de canaille. Hein. C'est une Java populaire, on va dire.
Mmh. Voilà. C'est-à-dire que les deux partenaires mettent les mains sur les deux paires de fesses ou c'est...
Oui, enfin, disons qu'elles sont sur le dos puis qu'elles peuvent glisser allègrement vers le bas. Et les danses américaines sont pas mal non plus. Alors, on se touche pas forcément. C'est le cas du charleston où on danse à côté de son partenaire, mais où, c'est très, très suggestif, évidemment.
On écoutait la revue nègre de Josephine Baker. C'est vraiment la star des années folles. Celle qui domine.
C'est vraiment la star. Vous avez cité Mistinguette, Maurice Chevalier, et la star des stars, c'est quand même Josephine Baker qui débarque en 1925, le 2 octobre.
Elle vient d'où, oui, d'ailleurs ?
Alors, elle vient du Missouri, vraiment le sud profond des États-Unis. Elle a été mariée à 13 ans, remariée à 15. Et puis, elle a connu le succès. Elle pensait qu'à danser. Elle connaît le succès à New York en 1900, un petit peu avant son arrivée à Paris. Elle est remarquée par le Théâtre des Champs-Élysées. Son directeur artistique s'appelle André Daven. Et elle vient, et là, elle fait un tabac d'enfer en une heure, comme souvent à Paris. Ça devient une star.
Et la Revue Nègre, dont on a entendu un court extrait tout à l'heure, c'est quoi ? C'est son premier spectacle ? C'est ce qu'il a fait connaître à Paris ?
C'est ce qu'il a fait, voilà. C'est vraiment, sa notoriété explose avec cette fameuse Revue Nègre. La danse sauvage, on appelle ça. Elle n'a pas encore son pagne de banane, oui. Mais elle a une espèce de plume qui est derrière son dos. Enfin, bon, en gros, sur ses fesses, et elle danse, elle louche, elle rit, elle exulte. Enfin bon, c'est assez incroyable.
Et elle séduit des hommes comme Georges Simenon.
Alors oui, qui a été engagé pour être son secrétaire. Ouais. Il n'est pas encore l'auteur de Maigret, mais il aime déjà beaucoup les femmes. Hein. On le surnommera d'ailleurs l'homme aux 10 000 femmes. Il est engagé comme secrétaire et ils tombent littéralement amoureux l'un de l'autre. C'est un vrai coup de foudre sexuel d'ailleurs. Pendant 18 mois, ça va durer comme ça.
Et d'ailleurs, il a une formule pour décrire le succès de Josephine Baker, une formule là aussi assez, on va dire, croustillante ou...
Oui, il l'appelle la croupe qui rit.
D'accord.
Et effectivement, il veut même vouer un culte à cette croupe. Il a une phrase assez savoureuse que je peux vous restituer. Donc, ouais. Comme on le dit dans notre supplément là du Parisien, c'est sans contredit la croupe la plus célèbre du monde, la plus désirée aussi. Et donc, c'est une croupe tellement photogénique parce que c'est une croupe qui rit.
C'est joli.
Joséphine qui se met aussi à chanter dans les années 30 avec ce titre pour l'éternité.
Les années folles, dans la curiosité, les années folles, ce sont aussi les années sport. Nos stars françaises s'appellent Suzanne et Georges, Lenglen et Carpentier. On découvre leurs secrets dans un court instant sur RTL.
Pourquoi Paris est-il devenu le lieu de prédilection d'autant de grands artistes qui, en à peine 25 ans, révolutionnent les arts ?
RTL.
Si je n'étais pas allé à Paris, je ne serais pas celui que je suis. Il n'existe pas de plus grande révolution de l'œil que celle que j'y ai trouvée. Le soleil de l'art ne brillait qu'à Paris.
La curiosité est un vilain défaut.
On allait tous à Paris. C'était notre but. Avoir du succès à Paris ouvrait toutes les portes.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Bienvenue dans le Paris des années folles, grâce à nos confrères du Parisien qui publient en partenariat avec RTL un hors-série sur ces deux décennies pétillantes de légèreté entre les deux guerres mondiales. On fait la fête et on se met au sport. Charles de Saint-Sauveur, c'est presque une obligation, un marqueur social de faire du sport ?
Il y a un côté régénérescence par le sport après la grande saignée de la guerre. Alors les corps sont plutôt sveltes, bronzés. Enfin, il y a une espèce d'injonction comme ça à être sportif, à être en forme.
Et on se découvre de nouveaux héros aussi, des héros sportifs. On commence par cette femme, Suzanne Lenglen. Qu'est-ce qu'elle faisait ?
Alors, elle était...
Ou Lenglen plutôt d'ailleurs.
Alors, j'ai jamais su.
Oui, personne ne sait jamais.
Je suis fan de tennis, je ne sais pas trop comment on prononce.
Aucune idée. Alors, elle était surnommée la divine, ce serait peut-être plus pratique. Ou alors la Nijinsky de la raquette, qui est peut-être un peu plus compliqué. En gros, c'est une rentière, comme beaucoup de femmes très sportives à l'époque, qui vient d'un milieu social très, très favorisé, et qui se met au tennis, qui est très très douée, qui bondit partout, et qui gagne à 20 ans seulement le Wimbledon en simple et en double. On est en 1920, et ouais. C'est une sensation assez incroyable.
Et aujourd'hui, d'ailleurs, il y a l'un des grands cours de Roland-Garros qui porte son nom, puisqu'on parle tennis. Est-ce que les années folles sont aussi les années mousquetaires ?
Alors oui, exactement. Les mousquetaires, d'ailleurs, pour l'anecdote, sont lancés par Suzanne Lenglen, qui effectivement est battue par un Américain qui s'appelle Bill Tilden, qui est un peu le Federer de l'époque, invincible, et qui, dans un match de gala, l'humilie 6-0, lui laisse aucune chance. Et elle décide de se venger. C'est un peu la Milady des mousquetaires, en quelque sorte.
Ah oui.
Puisque, un à un, elle va les choisir pour former cette équipe. En tout cas, c'est ce que raconte la légende. Et donc, ces quatre-là remportent pour la première fois le saladier, donc la Coupe Davis, en 1927. Ils ne vont pas la cachait le trophée hein, pendant 6 ans.
Ouais, il y avait Brugnon, Lacoste,
Borotra et Cochet, qui était sans doute le meilleur. Ouais. Et voilà. Et en plus, il dame le pion aux Américains, qui étaient invincibles.
Mais ça veut dire qu'il ramène ce qu'on appelait déjà le saladier d'argent, le trophée de la Coupe Davis. Est-ce qu'il y a un engouement populaire déjà autour de ce sport?
Alors, il y a un énorme engouement autour de ce sport qui naît hein, vraiment dans ces années-là avec l'Anglaine et avec les Mousquetaires. Mm-hmm. C'est surtout qu'on fait un peu la nique aux Américains, chez eux en plus. Oui. On leur pique le saladier, on construit Roland-Garros. L'engouement est tel qu'on construit quand même le stade de Roland-Garros pour la revanche en 1928. Ah oui. Les Français vont gagner. Et en 1929 jusqu'en 1932. Mm. Donc Roland-Garros vient de cet exploit.
Une autre star du sport français dans cette décennie effervescente, ces années folles, c'est Georges Carpentier. Lui, il avait l'art d'éviter les coups.
J'ai pensé qu'en boxe, et j'ai compris cela tout de suite, qu'il fallait, pour devenir quelqu'un, ne pas prendre les coups. Les éviter le plus possible et les donner naturellement. Et je me suis évertué dans toute ma carrière à prendre très peu de coups. J'en ai pris très peu de coups.
Incroyable archive, Georges Carpentier, aussi précis dans sa boxe que dans son phrasé. À quel point il était populaire, Charles de Saint-Sauveur?
C'est vraiment la première superstar du sport français. Il y a eu d'autres stars avant, l'Anglaine, les Mousquetaires. Enfin, lui, c'est un petit peu avant, pardon. Mais vraiment, il dépasse. C'est le héros populaire. Il a en plus cet art très français de l'esquive. On l'appelle notre Georges national. C'est un gars sympathique, héros de guerre. Hein, il est médaillé. Il a eu la Grand Croix. Il est absolument formidable sur un ring. C'est plutôt gracile, pas vraiment une brute, mais alors il esquive et puis beaucoup de panache.
Et puis Charles de Saint-Sauveur, dans le hors-série du Parisien, vous racontez cette journée du 2 juillet 1921. C'est un combat, là encore, contre un Américain, Jack Dempsey. C'est quoi? C'est presque une affaire d'État.
Ah oui, la France s'arrête littéralement. Le président, je crois que c'est Millerand à l'époque, Alexandre Millerand, se fait prévenir, passe des coups de téléphone pour savoir où le combat, comment le combat se déroule. Mmh. Alors malheureusement, donc il y a même un avion qui doit survoler Paris et faire une espèce d'arabesque pour dire aux gens, à la foule qui est en dessous, si Carpentier a gagné ou pas. Malheureusement, Dempsey est beaucoup trop fort au quatrième round. Le pauvre Carpentier est KO. Mmh. Mais c'est pas grave, il sera accueilli comme un héros à son retour en France.
Et puis l'événement majeur aussi sportif des années folles en France et à Paris, ce sont les Jeux Olympiques, les JO à l'époque. C'est déjà un événement médiatique?
Alors, ça commence à l'être. Hein, vraiment, le nombre de journalistes lors de ces JO de 1924, d'ailleurs, augmente considérablement. On passe de 200 à 1000 ou 2000 journalistes. Le nombre d'athlètes aussi, le nombre de femmes, même s'il est ridicule par rapport à aujourd'hui, commence à augmenter. Oui, c'est vraiment une vitrine du sport français.
Et il y a une star? Il y a quelqu'un qui va vraiment briller dans ces JO qui...
Alors, il y en a deux. Il y a le coureur de fond qui s'appelle Paavo Nurmi, qui est le Finlandais volant, comme on l'appelle, ou l'homme chronomètre, qui gagne 5 médailles d'or. Record qui sera seulement battu par Michael Phelps en 2008 à Pékin, donc ça a tenu longtemps. Mmh. Et puis il y en a un autre qu'on connaîtra au cinéma, qui s'appelle Johnny Weissmuller.
Ah oui.
Et qui en 1924 donc remporte 3 médailles d'or, une de bronze, et qui deviendra Tarzan au cinéma quelques années plus tard.
Les années folles qui portent bien leur nom, même le personnel politique est fou. Dans un instant, on vous raconte comment le président de la République est tombé du train. Restez avec nous sur RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Le film La Femme Rêvée est une plongée dans le Paris des années folles. Capitale flamboyante de la fête, des avant-gardes, de la libération sexuelle.
Sur RTL.
Sa malédiction, une révolution en marche à la fin des années 20.
Ce nouveau film va pour la première fois connaître les honneurs du public.
Les Français, ébahis, découvrent le cinéma sonore.
La curiosité est un vilain défaut.
Et toujours avec nous le journaliste Charles de Saint-Sauveur, grâce à vous et aux hors-séries du Parisien en partenariat avec RTL. On se transporte donc dans ces années folles, une décennie au sortir de la Première Guerre mondiale, effervescence, légèreté, bonheur, insouciance, il y a tous ces mots, tous ces adjectifs qui nous viennent en tête. Et alors on parlait aussi, vous nous l'avez dit, d'une décennie marquée par une concurrence franco-américaine. Aux Jeux Olympiques, pour boucler l'histoire des Jeux de 24 qui se déroulent à Paris, les Français ont-ils bien figuré?
Ah oui, à l'époque on était même deuxième du classement hein, sur le médaille d'argent, avec 41 médailles. Mais le match contre les États-Unis, on l'a perdu, puisqu'ils étaient très nettement devant avec 99 breloques.
Ah oui, ça fait beaucoup, effectivement.
C'était déjà le cas. Mais à l'époque, oui, on était très bons, en escrime, en vélo notamment. Donc des disciplines qui sont toujours très, très pourvoyeuses de médailles pour la France.
Donc de la folie un petit peu partout, et même en politique. Alors on est en 1920 et Paul Deschanel est élu président de la République. Il est un peu spécial, le bonhomme ?
Alors au départ, non. Au départ, c'est vraiment le parfait notable de la Troisième République, un esthète. Des belles moustaches bien lissées, un esprit brillant. Mais quand il est élu président de la République, d'ailleurs à la surprise générale, puisqu'il bat Clémenceau, qui était quand même le vieux tigre, alors là, il fait un burn-out, littéralement, une dépression nerveuse.
Ah oui. C'est la joie.
C'est l'enfer pour lui. Ces murs m'écrasent, dit-il le premier jour. Alors pourtant, à l'époque, le président de la République, c'est pas comme aujourd'hui, sous la 5e, c'est beaucoup moins de responsabilités. On inaugure les chrysanthèmes, le pouvoir réel est à Matignon. Mais lui ne supporte pas cela.
Mais il y a des signes, on va raconter l'épisode du train, mais il y a des signes avant-coureurs de cette dépression. Il a un comportement un peu particulier, je sais pas, à la chambre, ou enfin pas à sa chambre, la chambre des députés.
Dans son lit.
Alors, on n'est pas allé jusque dans sa chambre, mais il y a quand même des comportements, oui, qui sont très très surprenants. Par exemple, il ramasse des fleurs qui tombent dans la boue, il le relance dans le public. Il refait deux fois son discours, il a des fous rires. Ça lui est même arrivé de grimper aux arbres. Alors, il parle aux arbres, évidemment, mais c'est de l'Élysée.
Ah bah oui, ça a parlé aux arbres de l'Élysée, c'est normal, tout le monde l'a fait.
Mais par contre, il grimpe aux arbres en coassant. Il a reçu un ambassadeur tout nu. Enfin bon, il y a quand même quelques signes comme ça qui devaient inquiéter. Il renvoie son courrier, en signant Vercingétorix ou Napoléon.
Ah oui, jusqu'à ce grand jour, le 23 mai 1920, Paul Deschanel fait un voyage. Il est dans le train et il part vers Montbrison. Qu'est-ce qui lui arrive ?
Alors, en fait, il fait très très chaud ce jour-là. Il a pris des calmants et vers minuit, il se réveille. Il essaye d'ouvrir sa fenêtre. Et là, boum, la fenêtre est trop basse. Il bascule et on le retrouve errant près de Montargis, errant en pyjama. Et personne ne veut croire qu'il est effectivement le président de la République. Il a beau le dire, il a le visage en sang. Et c'est seulement au petit matin, 6 heures plus tard, qu'on découvrira qu'il n'y a plus personne dans le wagon du président.
À l'arrivée, à Montbrison.
Mais est-ce qu'il sait ce qui s'est passé, Paul Deschanel, ou alors il a perdu la tête ?
Alors, il a un peu perdu la tête, les calmants probablement ont dû faire effet, et puis bon voilà, il était désemparé réellement, c'est un homme brisé.
Il a perdu son boss, j'imagine.
Alors il est la risée générale, la presse de l'époque est assez mordante, et quatre mois après, effectivement, il démissionne et il reviendra jamais, il a tenté un retour en politique, mais il meurt quelques mois plus tard.
Allez, un mot aussi de l'aviation, parce que c'est aussi une période, les années folles, où on se passionne pour les grands aviateurs. On va simplement citer l'exploit de Lindbergh.
Ah ben Lindbergh, c'est vraiment l'aigle solitaire, la folie à Paris hein, quand il arrive. 33 heures sans escale, le premier homme à réaliser cet exploit. Il y en a 8 qui sont morts avant lui, puisqu'il s'agissait d'un prix qui était récompensé de 25 000 $, le prix Orteg. Et lui, totalement inconnu, employé de l'US Postal, franchit l'Atlantique, se pensait condamné à mort en entrant dans le cockpit. Il avait dit « si j'arrive à Paris, c'est qu'on m'aura gracié ». Et sa simple phrase, quand il arrive dans une foule, 150 000 personnes qui l'attendent au Bourget, c'est juste de dire « Well, I did it ».
Je l'ai fait.
L'ai fait, et s'en suivra. 6 jours de fête à Paris pour Charles Lindbergh, c'était le 21 mai 1927. Voilà, l'une de ces dates qui ont marqué les années folles, à découvrir dans votre hors-série du Parisien, ce Paris des années folles, en partenariat avec RTL. Merci beaucoup, Charles de Saint-Sauveur, à bientôt.
Merci.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.